Mes camarades, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Notre secrétaire général étant présent à la tribune, nous allons reprendre. Les 15 minutes de coiffeur se sont transformées en 30. S'il vous plaît, reprenez vos places. Alors, j'appelle à la tribune Paul Brilly et se prépare Éric Bellemare, s'il vous plaît. Je t'en prie, Paul, tu as la parole.
Salut fraternel des syndicats. Pardon ? Alors. De la Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaires, et plus généralement de la Fédération des Employés Cadres, FO. La Fédération Générale des Clercs et Employés de Notaires a tout juste fêté ses 99 ans en mars. Mes camarades, je vous rassure, je ne suis pas venu à la tribune pour vous faire une leçon d'histoire. Mais presque 100 ans d'existence, c'est avoir été au cœur de multiples transformations de la profession. La Fédération a revendiqué et obtenu des conquêtes importantes pour les salariés. Je pense notamment à la CRPCEN, la Caisse de retraite de prévoyance des clercs et employés de notaire, et l'action sociale au niveau de la branche. Ces fondements ont profité à de multiples générations au fil des années et ont constitué un lien entre chaque génération. Nous sommes passés par la machine à écrire, le fax, le Minitel. D'ailleurs, on a retrouvé un Minitel récemment dans les bureaux de la Fédération. À aujourd'hui, l'IA, dans des cadences toujours plus accélérées. Un jeune qui rentre dans la profession aujourd'hui est en concurrence directe avec l'IA. Et les jeunes sont vulnérables face à cette nouvelle technologie. Quand les postes de junior ou les stages ne sont pas remplacés par l'IA, les jeunes, voilà. Mais malgré ces différences, il y a une chose qui, elle, ne change pas et ne changera pas. Les revendications, mes camarades, qu'il ait commencé à travailler dans les années 80 ou qu'il débute aujourd'hui, un jeune salarié se pose exactement les mêmes questions. Son niveau de salaire, ses conditions de travail, la reconnaissance professionnelle et une progression de carrière. On entend souvent dire, ici et là, les jeunes ne sont pas engagés. Mes camarades, je n'y crois pas une seule seconde. J'ai d'ailleurs un contre-exemple à vous donner, ici même au sein de notre confédération. FO Jeunes, vous avez peut-être vu notre stand, a été relancé par notre secrétaire général il y a bientôt 2 ans. Dès sa création, nous avons saisi l'occasion. D'un petit bureau initial, nous avons rapidement grandi avec des jeunes camarades de différents secteurs, mais réunis par les mêmes préoccupations et les mêmes objectifs. Nous avons organisé de multiples réunions de travail, commencé une stratégie sur les réseaux sociaux, organisé une journée nationale en juin 2025, et j'en passe. FO Jeunes, c'est la capacité de dire aux salariés que nous défendons leurs droits dans leur entreprise et dans leur branche, mais que nous sommes aussi conscients des réalités spécifiques auxquelles se confrontaient les jeunes travailleurs. FO Jeunes, c'est la capacité de dire qu'on peut s'adresser à tous les jeunes, qu'ils aient commencé à travailler à 18 ans, ou qu'ils aient commencé à travailler après 5 ans d'études, ou qu'ils soient des jeunes un peu plus vieux, avec une calvitie. Contrat précaire, santé mentale, accès au logement, ce sont des réalités qui peuvent toucher chacun d'entre nous à différents moments de la carrière, mais qui frappent plus particulièrement les jeunes. Et ces réalités, nous ne pouvons plus les ignorer. Et pourtant, on continue toujours à considérer les jeunes comme un peu à part. Mais s'ils ont été capables de rejoindre massivement nos cortèges en 2023 pour lutter contre la réforme injuste et brutale des retraites.
Mon camarade, il va falloir que tu penses à conclure.
soyons aussi capables de parler accès au logement, lutte contre les formes précaires de travail, santé mentale et toutes les formes de discrimination. Alors mes camarades, la prochaine fois que vous seriez en négociation de branche, en CSE ou en AG de votre syndicat, arrêtez-vous, retournez-vous et assurez-vous qu'il y a un jeune derrière vous pour vous accompagner.
Mon camarade.
Vive Info Jeune, vive la FECFO et vive le rajeunissement de la Confédération Force Ouvrière.
Merci Paul. Donc j'appelle à la tribune Éric Bellemare et se prépare Brahima et Tatman. Je t'en prie, Eric.
Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNUDI Martinique, du bureau et de la commission exécutive de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Martinique. Bonjour, l'Outre-mer. Alors, ils sont un peu en vadrouille, là. Bonjour, chers membres du Congrès. Je vous informe que je voterai les rapports d'activités et les rapports de trésorerie. Chers collègues, en chez moi, il y a une grève qui dure depuis un mois dans les transports suite à un refus des employeurs d'appliquer la Convention collective nationale des transports urbains. Nous avons un système de santé en déliquescence. Un système de santé qui n'est pas digne d'un pays comme la France au XXIe siècle. Nous avons des morcellements des unités économiques afin d'éviter la mise en place des instances représentatives du personnel. Et puis, nous sommes engagés, chers camarades, dans un processus d'évolution institutionnelle qui a été voté de façon unanime par le Congrès des élus et par la collectivité territoriale et qui ouvre la voie à des négociations avec le gouvernement avant une consultation de la population. Depuis ce jeudi 16 avril, l'Assemblée nationale française a définitivement validé l'accord octroyant à la Martinique le statut de membre associé de la communauté des Caraïbes. C'est le CARICOM qui forme le marché unique des Caraïbes. Chez moi, c'est vrai, il fait beau, il fait chaud, le son est bon. Il y a quand même cinq crises. Une crise sanitaire relative aux sargasses, au chlordécone. Une crise sociétale, une population qui vieillit, un taux de natalité qui est inférieur au taux de mortalité. Près de 27% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14% en Hexagone. Nous sommes touchés par le narcotrafic, la situation géopolitique, Trump ayant bloqué certaines routes. Nous sommes devenus une plaque tournante. Et en 2025, 40 homicides, donc 34 par arme à feu. En 2027, en avril, nous avons eu 9 homicides, dont 8 par arme à feu. Nous avons aussi une crise sociale. Le taux de chômage est de 13% de la population active, un niveau supérieur de 5 points à l'Hexagone. Nous avons 6 000 jeunes qui partent chaque année et qui ne reviennent pas. Une crise économique, la vie chère, je ne vais pas vous faire un live statut. Vous savez que nous vivons une véritable situation de profitation. Nous avons, qui ne peut passer pour nous, être solutionné que par une régulation des marges, des prix, des revenus et du pouvoir d'achat. Et puis, nous avons une crise identitaire.
Mon camarade, pense à conclure, s'il te plaît.
Nous avons une crise identitaire.
Je prépare 30 secondes avant les 4 minutes. C'est pour que le discours soit plus fluide. Mais si vous perdiez moins de temps, ça serait mieux. Je t'en prie, Eric.
Oui, c'est vrai, la Martinique, c'est loin, mais c'est quand même pas une carte postale. Et nous avons de véritables problématiques. Et qui fait que, vous savez, chez nous, il y a un chanteur qui a dit, et ça illustre tout à fait notre situation. Le paysage est vraiment beau, c'est la première des choses. Ce qui fait croire à certains qu'ici, la vie est rose, alors que la crise est chronique et que l'on frôle l'overdose. Le fait que les gens se débrouillent empêche que tout explose. Ça crée des rebelles, mais ça aussi, ça crée des rebelles sans cause. Des exclus sans but rencontrant des portes closes. Alors, quand ils jouent les shows, pas facile de les mettre sous pause. Et vous avez vu ce que ça a donné en 2023 et en 2021. Mais chez nous, et je ne serai pas plus long, puisque ce sont des problématiques qui semblent ne pas intéresser tout le monde, chez nous, il y a un bagage là qui est très fort, c'est que nous sommes des bons. Force nous, c'est que nous ne pouvons jamais coucher et rester debout. C'est ce qui veut dire que nous ne nous couchons jamais, nous restons debout. Et je terminerai en disant une citation de Bob Marley. « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. » Vive l'UDI de Martinique, vive Force Ouvrière.
Merci Eric. J'appelle à la tribune Brahima Tatma, mais que se prépare Franck Bergamini. Et je préviendrai 30 secondes avant l'heure fatidique, mais vous aurez... Mais vous aurez 30 secondes après. Ça fait une minute de rab. Brahim, je t'en prie.
Je te préviens tout de suite, Patricia, je prendrai un peu plus que 4 minutes. Camarades, je suis le secrétaire du syndicat EFO des métallurgistes du Val-de-Seine. Je viens d'un site dont tout le monde parle en ce moment, c'est le site de Poissy, un site de plus de 2000 salariés qui se battent tous les jours pour ne pas disparaître. À Rouen, quand Frédéric Suyot a été élu, le Val-de-Seine était à la tribune pour lui apporter notre soutien. Aujourd'hui, à Dijon, nous sommes à nouveau là parce que la fidélité, camarades, ça se prouve dans la durée. Ce congrès s'est ouvert sous un slogan que je reprends à mon compte. La paix pour la justice sociale. Frédéric Soyot l'a rappelé. Les premières victimes des guerres sont toujours les travailleurs. En Ukraine, en Russie, au Moyen-Orient, ce ne sont pas les nantis qui souffrent. C'est la classe des travailleurs. Il a cité Léon Jouot, prix Nobel de la paix. L'unité du travailleur se fera dans la paix dans le monde. Ces mots nous engagent, mes camarades. À Rouen, à ceux qui nous accusaient d'obscurantisme, j'avais répondu, et je le redis aujourd'hui, un droit acquis par la négociation vaut mille fois mieux qu'une faculté arrachée. L'histoire nous l'enseigne sans appel. Toute révolution finit par déverser le sang, les larmes et la misère sur la classe ouvrière elle-même. Ce sont toujours les travailleurs qui payent la facture des grands soirs. Depuis Rouen, nous avons travaillé, négocié et obtenu le Val-de-Seine, ses 30 sections, Renault, Stellantis, Safran, mais aussi Selmer, Envia. Ces implantations ne doivent rien au hasard. C'est le fruit d'un syndicalisme qui agit, qui négocie, qui délivre. Celui de Frédéric Soyot, celui de EFO Métallurgie, notre syndicalisme, quand EFO Métallurgie a scellé la nouvelle convention collective, certains nous ont reproché de nous asseoir à la table. Aujourd'hui, cette convention protège des centaines de milliers de salariés. C'est ça le syndicalisme réformiste et exactement ce que dit la charte d'Amiens. J'ai lu le texte du courant indépendant et déterminé. Je respecte ses signataires. Indépendance syndicale, démocratie interne, charte d'Amiens. Ce sont nos valeurs communes. Personne n'a le monopole. Mais soyons clairs, l'indépendance, ce n'est pas l'immobilisme. Et la démocratie interne, ce n'est pas la stratégie du coup de force. Depuis le début de ce congrès, nous avons tous vu les incidents, les camarades qui ont cherché à se faire entendre par d'autres voies que celles de nos statuts. Je le dis avec respect, mais fermeté. On ne déstabilise pas une organisation au moment même où elle porte un message de paix au monde. Quand on réclame la démocratie interne, on la respecte d'abord. Quand on invoque la charte d'Amiens, on accepte la discipline collective. Et quand on se dit indépendant, on ne donne pas des arguments à ceux qui, dehors, espèrent notre division.
Brahim, tu penseras conclure.
Un mot sur la désindustrialisation. La désindustrialisation a commencé dans les années 80. Machines-outils, composants électroniques, ordinateurs, saluant le récent retour de Bull dans le giron de l'État, puis l'électroménager et maintenant l'automobile. Ma conviction, l'intelligence artificielle va rebattre les cartes. L'emploi à bas coût sera de moins en moins un avantage compétitif. À nous de retenir nos cerveaux, de former nos ingénieurs, comme après la guerre, et cela nous avait donné les 30 glorieuses. Pas de rien d'israélisation sans réduire le chômage et sans mieux rémunérer le travail.
Brahim,
et Faustilantis a présenté son livre blanc à cet égard. Téléchargez-le et partagez-le. Un dernier combat. Averroès le disait il y a 9 siècles. L'ignorance mène à la peur. La peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Un racisme assumé, une haine amplifiée par les réseaux devenus des décharges à fake news. Et tout cela prospère sur l'ignorance.
Brahim, s'il te plaît.
Nous ne laisserons pas cette boue là s'installer. Pain, paix, liberté, ce n'est pas un slogan, c'est une ligne rouge. Je salue Verrier pour son dévouement dans une période difficile. La gratitude ne s'efface pas. Frédéric Souillot a repris ce flambeau. Il a eu, il aura toujours besoin de toutes les bonnes volontés pour mener l'organisation à bon port.
Brahim, s'il te plaît.
La mer est mauvaise. La métallurgiste du Val-de-Seine sont de celles-là. Nous voterons le rapport d'activité et l'ensemble des rapports sans ambiguïté. Parce que les salariés n'ont pas le luxe de nos divisions. Parce que la haine ne l'attend pas. Parce que la seule réponse à ceux qui fabriquent la peur dehors comme dedans, c'est d'agir, c'est négocier, c'est obtenir. Je soutiens Frédéric Souillot. Je soutiens FO unie, vigilante, fidèle à elle-même. Sans jamais se soumettre, sans Brahim. Jamais se taire, sans jamais baisser la tête. Vive Force ouvrière!
Franck Bergamini monte à la tribune et se prépare à Mélichel.
Camarades, bonjour. Je suis désolé, Madame la Présidente, ma chère camarade. Je serai un peu obligé de dépasser les 4 minutes qui me seront consacrées. Parce que 4 minutes pour commenter un rapport d'activité qui regroupe 4 ans, ça fait 1 minute par an, ça me fait un peu court, y compris quand on sait que j'ai eu quelques soucis pour intervenir au dernier congrès confédéral, donc 4 minutes pour 8 ans me semble un peu limite. Je vous apporte, mes camarades, le salut fraternel de l'ensemble des syndicats des Bouches-du-Rhône, et plus particulièrement de ceux qui m'ont mandaté, les 10 syndicats statutaires qui m'ont mandaté, qui sont la Société des Eaux de Marseille, la Société d'assainissement des Eaux, la CERAM, le Conseil départemental, Conseil régional, Grand Port maritime de Marseille, OSDD, Syndicat national de la qualité de l'air, Groupama Méditerranée, Unité 13 et le Syndicat du commerce 13. Je les cite tous en respect pour le travail qu'ils font, mes camarades. Quand je vous parle de travail, la SEM, pour ne citer que, 700 salariés, 700 CDI aux dernières élections, 95% de participation, c'est déjà beau, 94% pour Force ouvrière. Ces syndicats, mes camarades, m'ont demandé de voter les rapports d'activité et de trésorerie présentés par Frédéric et par Patrick au nom du Bureau confédéral. Mes camarades, je voudrais remercier l'ensemble du Bureau confédéral, ici présents, et ceux qui restent, bien sûr, mais également ceux qui sortent. Dans ceux qui sortent, je n'oublie pas Hélène et Michel, qui eux vont vers une belle retraite, je l'espère, en tout cas je leur souhaite. Béatrice, je te souhaite également une bonne suite dans tes activités. Et à Karen, je souhaite d'avoir autant d'éloges dans ses futures fonctions que ce qu'elle n'en avait sur son poste actuel. Mes camarades, j'ai écouté beaucoup d'interventions jusqu'à tard le soir. C'est dommage que Dijon soit une ville sympathique à visiter, parce qu'il est quand même dommage que certains camarades interviennent devant quasiment personne. J'ai beaucoup écouté, mes camarades. Ça n'a pas changé mon avis sur cette maison. C'est une belle maison, mais très complexe. Elle est très complexe. On a des débats entre camarades, et je dois dire quand même que de temps en temps, il y a un peu la forme de certaines interventions qui, à mon avis, dépassent des limites. On peut tous se dire, c'est déjà beau à Force ouvrière, respectons-le en restant dans une forme digne. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses, je sais. On aurait pu se passer, franchement, tous ici, d'un certain nombre de discussions, et notamment, j'ai entendu l'assurance chômage, etc. On aurait pu s'en passer avant le Congrès confédéral. Mais écoutez, j'ai une expérience difficile qui restera dans ma tête, et peut-être même dans mon cœur pendant toujours. C'est l'expérience de 2018. Mes camarades, faisons attention, quand on a à juger un mandat de 4 ans, de ne pas s'attarder uniquement sur les atermoiements qu'il y a pu y avoir, des divergences qui ont pu apparaître sur les quelques dernières semaines. S'il vous plaît, mes camarades, parce que je vous le dis, on n'a pas d'autre solution que de sortir de ce congrès uni. On est condamné à travailler ensemble. Quel que soit ce qu'on le représente, on est condamné à travailler ensemble. Et vous savez, il y a beaucoup de discussions, et je sais qu'il y a des discussions à chaque fois qu'il y a une négociation, une conférence ou autre. Alors si on n'y va pas, c'est pas bon. Si on y va, c'est pas bon. Si on en sort, c'est pas bon. Si on y reste, c'est pas bon. Voilà la maison Force ouvrière, mes camarades. Pour autant, moi, je considère qu'on doit participer partout. C'est notre place d'aller participer. On doit aller expliquer nos revendications, faire évoluer ce qu'on essaie de nous pondre. Et mes camarades, s'ils ne sont pas capables de nous écouter, alors dans ce cas-là, on en sort et on prépare le rapport de force. Parce que ça ne sert à rien d'en sortir et juste de crier au loup.
Franck, tu penseras à conclure ?
Comme a dit un camarade hier, j'y pense. Mes camarades, aucune position dans notre organisation ne fera l'unanimité. Aucune. Pour autant, on est condamné à aller chercher une unité. Jamais personne ne doit considérer que Force ouvrière, c'est vrai, jamais personne ne doit considérer que Force ouvrière est une courroie de transmission d'un gouvernement quel qu'il soit. Mais jamais personne ne doit considérer que Force ouvrière est une courroie de transmission d'un parti politique quel qu'il soit non plus. Les deux sont vrais. Notre unité doit être notre boussole, mes camarades. Si jamais on se trompe là-dessus, si on se mettait à parler politique, on serait jamais d'accord. Si on parle syndicalisme, on sera toujours d'accord.
Franck, tu conclus ?
Vous savez, mes camarades, ce dont on est tous sûrs ici, c'est qu'en face, le camp d'en face, ils sont là pour récupérer tout ce que nos anciens se sont battus pour avoir. Tout. La seule divergence que l'on a les uns les autres, c'est la manière à mettre, pour mettre en place le rapport de force, pour aller récupérer ce qu'ils sont en train de nous prendre, mes camarades. C'est la seule divergence que l'on a entre nous. Trouvons les compromis et on y arrivera, mes camarades. Je vous le dis. On est condamnés à travailler ensemble parce que les travailleurs de ce pays, ils attendent qu'on soit suffisamment fort, force ouvrière, pour faire reculer toutes les attaques sur leurs droits. Si dans nos débats, chacun se polarise ou que les salariés finissent par considérer que nous ne sommes pas à la hauteur, alors mes camarades, s'ils ne comptent pas sur nous, ils iront alors exprimer leur colère dans les urnes. Et alors là, mes camarades, on est dans une période charnière. On a tous une responsabilité là-dessus. Je vais finir, parce qu'il faut finir à un moment.
Merci Franck.
On va travailler sur les cartes et timbres, c'est une nécessité, mes camarades. Il faut que le Bureau confédéral, il faut que la CE confédérale et le CCN s'engagent là-dedans. Travailler sur les cartes et timbres, c'est une nécessité. Travailler sur le développement, des camarades l'ont dit avant moi et mieux que moi, notamment chez les cadres, c'est important également. Partout, on doit se renforcer pour peser plus, et notamment dans les élections de la fonction publique des trois versants, et dans le privé également, dans toutes les élections qui se présentent à nous. On doit aller les chercher, mes camarades. Fred, tu auras le soutien des syndicats des Bouches-du-Rhône. Je crois que tu le sais. Même quand on a des discussions, je crois que tu le sais. Mais je crois aussi que tu sais que ce n'est pas un soutien inconditionnel et sans fond. Je crois que tu sais que c'est un soutien, c'est l'émotion. C'est un soutien sincère et engagé. Mes camarades, je n'en fais pas plus long. Vive l'UDF au 13 et ses syndicats. Et vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière.
Amélie, et que se prépare Olivier Fèvre. Amélie, je t'en prie.
Merci. Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNIAE, premier syndicat des 4200 ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, agents de la fonction publique, présents au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement et chez leurs opérateurs. Un corps technique engagé au quotidien pour garantir une agriculture sûre, durable et performante, tout en préservant les ressources naturelles, la biodiversité et les équilibres des territoires face aux défis environnementaux. Alors ça représente quoi ? Chaque jour, nous veillons à la sécurité de ce qui arrive dans vos assiettes. Nous protégeons nos cultures et nos élevages et accompagnons nos agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques. Nous soutenons aussi les filières et les territoires face aux défis climatiques, sans oublier la formation de nos jeunes, agriculteurs de demain. Un rôle exigeant, indispensable, encore trop souvent méconnu et qui doit être pleinement reconnu. Mais c'est aussi un corps qui, comme tant d'autres dans la fonction publique, subit depuis des années les effets des politiques d'austérité, le tassement des carrières et un manque de reconnaissance persistant, pour ne pas dire du mépris. Cadres intermédiaires et supérieurs, nous sommes en première ligne d'un malaise profond, pris en étau entre des injonctions contradictoires, parfois hors sol, et des équipes en souffrance que nous soutenons chaque jour. Surcharge, épuisement, perte de sens, la réalité est là. Oui, les cadres souffrent aussi, et trop souvent en silence. Parce qu'ils tiennent pour leurs équipes, pour le service public, ils absorbent, ils encaissent. Mais à force de porter seuls, même les plus solides finissent par vaciller. Alors nous sommes là pour le leur rappeler. Ils ne sont pas seuls. FO est là, à leur côté, pour les soutenir, les défendre et porter leur réalité, sans détour, sans filtre et par le rapport de force, si nécessaire. C'est tout le sens de l'engagement du SNIAE-FO. Faire reconnaître nos compétences, défendre nos métiers, garantir des parcours professionnels dignes et attractifs. Et ce combat ne s'arrête pas à notre seul corps. Il concerne toute la fonction publique. Car derrière chaque agent, il y a un service public qui tient souvent à bout de bras. Et derrière trop de réformes, une logique budgétaire qui fragilise nos métiers, nos conditions de travail et au final, le service rendu aux citoyens, à vous mes camarades. À l'approche des élections professionnelles de fin 2026, l'enjeu est majeur. C'est le moment de faire entendre la voix des agents, de renforcer notre représentativité et de rappeler que le syndicalisme libre et indépendant est plus que jamais indispensable. Je veux ici remercier celles et ceux qui nous permettent de tenir ce cap. Merci à notre fédération, la FETS, pour son soutien constant et la qualité du travail mené au service des syndicats. Ces échanges et ce travail collectif renforcent concrètement notre action sur le terrain et nous permettent de porter ensemble une parole syndicale plus forte et plus cohérente. Merci à la FGF qui défend sans relâche les agents de la fonction publique malgré des gouvernements successifs qui n'ont cessé de faire preuve de mépris et d'imposer des politiques d'austérité. Oui, à chaque crise, on redécouvre l'importance du service public. Mais les applaudissements ne nourrissent pas nos enfants, ils ne payent pas nos loyers. Nous n'aurons de cesse de le rappeler, tous les travailleurs ont le droit de vivre dignement de leur travail, y compris les agents du service public. Merci également à la Confédération et merci Frédéric pour ta présence à nos côtés. Aller à la rencontre des militants, leur serrer la main, cela peut paraître anodin, mais c'est important, ça compte, ne l'oublions pas. Cela permet de remotiver, de redonner de la force et de l'élan. Cela rappelle surtout que nous formons une seule et même organisation, une seule et même force, force ouvrière. Et à ce titre, j'en profite pour vous dire que le SNIAEFO approuvera le rapport d'activité et le rapport financier. Mes camarades, notre force, c'est le collectif. Dans un contexte où gouvernement et patronat cherchent à opposer les travailleurs, privés contre publics, actifs contre retraités, titulaires contre contractuels, refusons cette logique. Ne tombons pas dans le piège de la division, restons fidèles à ce qui nous unit. Si nous avons choisi force ouvrière, ce n'est pas un hasard. C'est le choix d'un syndicalisme libre et indépendant fondé sur liberté, égalité, fraternité, laïcité. Un syndicalisme qui rassemble tous les travailleurs, actifs, chômeurs, retraités, au-delà des opinions pour défendre l'essentiel, nos droits, nos conditions de travail, notre dignité. Alors oui, faisons bloc, unis et solidaires, parce qu'ensemble, nous sommes force ouvrière et ensemble, nous défendrons les droits de tous les travailleurs. Et je conclurai sur cette citation de Bertolt Brecht, celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Vive le SNIAEFO, vive FO Agriculture, vive la FETS et la FGF, vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, vive le syndicalisme libre et indépendant.
Merci Amélie. Monte à la tribune Olivier Fèvre et se prépare Elena Bianchi. Olivier Fèvre ?
Il n'est pas là.
Alors Elena Bianchi. Et se prépare Sébastien Guerre. Merci Elena d'avoir été très près de la tribune. Je t'en prie Elena.
Je vous remercie. Chers camarades, les camarades de FOCUN, constructeurs de machines agricoles dans le Bas-Rhin, m'ont demandé pour vous transmettre leur salut fraternel et pour voter favorablement le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Je représente également les camarades de FO USECOM, toujours du 67, dont j'ai l'honneur d'être la déléguée syndicale centrale. Je précise, la première DSC féminine dans une entreprise qui existe depuis 70 ans. Je voudrais d'abord remercier Didier Glatt, présent dans la salle, pour son soutien constant dans mon engagement. Je remercie également mes camarades FO de l'entreprise et de l'USM pour leur confiance et leur présence à mes côtés. Et bien sûr, la Fédération FO Métaux pour la confiance qu'elle me témoigne. Si je prends la parole, c'est pour porter un message essentiel. Un message qui concerne notre rôle et nos responsabilités collectives. Je le dis avec conviction, je fais partie d'une génération qui n'a pas gagné les grandes conquêtes sociales, mais qui a le devoir de les préserver. Camarades, parlons de réalité. Je travaille chez SEW USECOM, une entreprise qui fabrique des moteurs électriques et des systèmes d'entraînement industriels. Sur mon site, nous sommes un peu plus de 1000 salariés, dont moins de la moitié sont des ouvriers. Le reste, eh bien, c'est des étames et une population de cadres en pleine croissance. Parce que l'industrie change, modernisation, automatisation, nouveaux métiers. Moins d'ouvriers, plus de techniciens, plus d'ingénieurs, plus de chefs de projet. Le troisième collège devient central et pourtant, les cadres subissent une pression énorme. Objectivité, disponibilité, exemplarité, souvent sans moyens et sans reconnaissance. Eux aussi ont besoin d'être représentés et ils attendent de nous de l'écoute, de l'analyse, de la discrétion et du concret. Alors, à FOUSECOM, nous avons agi. Nous avons fait des communications ciblées, une chaîne WhatsApp dédiée aux cadres, des synthèses claires après chaque réunion. On dit ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit. FO est devenue la première organisation syndicale de l'entreprise, avec une évolution de plus de 43% de nos adhérents en 4 ans à effectif constant. Ce résultat n'a rien d'un hasard. Il repose sur une méthode claire, une ligne constante et une organisation qui assume ses choix. Le troisième collège n'est pas un supplément, c'est un levier stratégique. Les cadres structurent l'entreprise, ils pèsent dans les décisions et ils ont besoin d'un syndicat solide, cohérent et indépendant. Camarades, la suite dépend de nous. Pour continuer à peser dans les entreprises comme au niveau national, nous devons investir ce collège, comprendre ses attentes, adapter nos pratiques sans jamais renier nos valeurs. Se développer, ce n'est pas un slogan, c'est de notre responsabilité. Et avant de conclure, je veux répondre clairement à ce qui a été dit dans certaines interventions hier. Au sujet de la marche blanche du 5 juillet 2025 chez BDR Thermea. On a beaucoup parlé de la présence d'un député, mais uniquement de ça. Alors, remettons les faits dans l'ordre. Il était à la tribune en tant qu'élu du peuple. Aucune prise de position, aucune référence politique, rien. Mais surtout, et c'est là que le débat a complètement dévié, qui a parlé des salariés? Qui a rappelé ce que cette marche représentait vraiment? Parce que moi, je n'ai jamais entendu personne dire le chiffre. Alors, je vais le dire. 354 salariés laissés sans emploi, 354 vies, 354 familles. C'est ça la réalité, pas la polémique. FO regarde les faits, les salariés, leur avenir. Et je veux remercier Frédéric et Valentin pour leur soutien qu'ils ont apporté à tous ces salariés ce jour-là. Un soutien concret, humain, indispensable. Un soutien qui honore FO.
Elena, tu penses à conclure, s'il te plaît ?
Je conclue. Pour finir, je tenais à remercier les équipes FO qui ont organisé ce congrès. Vive la Confédération FO, vive la Fédération FO Métaux. Merci pour votre écoute.
Merci Elena. Monte à la tribune Sébastien Guerre et se prépare Daniel Ferté.
Mes camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat national FO Pro BTP, groupe de protection sociale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite remercier nos camarades de Bourgogne ainsi que les salariés de la Confédération qui se démènent pour faire de ce congrès une réussite. Mes camarades, il est bon de rappeler que le slogan pour le pain, la paix et la liberté soit réaffirmé par notre Confédération. Nous réaffirmons notre solidarité envers les travailleurs et les syndicats, première victime des conflits qui sévissent partout dans le monde. J'en profite pour reprendre la formule d'un camarade pour qui j'ai beaucoup d'affection. Guerre à la guerre, paix aux travailleurs. Nous continuons d'appeler à une résolution pacifique dans tous les conflits, dans le respect du droit international, tout en dénonçant les postures va-t-en-guerre et toute escalade guerrière d'où qu'elle vienne. Nous appelons également le mouvement syndical international et européen à œuvrer solidairement pour l'arrêt immédiat des conflits, pour la paix et la justice sociale, pour des cessez-le-feu immédiats et permanents, et pour que les droits des peuples soient pleinement respectés. Alors mes camarades, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez combien la sécurité sociale me tient à cœur. C'est un bien commun auquel nous devrions être profondément attachés. On nous parle d'efforts et d'équilibre, mais derrière ces discours, une réalité persiste. Le financement se dégrade et sert de prétexte à de nouvelles économies. Ce ne sont pas les principes de la sécurité sociale qui posent problème, ce sont les choix politiques. Quand des milliards échappent durablement à son financement sans remise en cause, ce n'est pas un hasard, c'est une orientation. Les perspectives à venir sont préoccupantes. Pendant que les déficits se creusent, on installe l'idée que notre modèle ne serait plus soutenable. Un discours dangereux qui prépare de nouveaux reculs. Nous dénonçons cette logique, une logique d'austérité, de transfert de charges qui éloigne la sécurité sociale de ses fondements. Car au-delà des comptes, ce sont des principes essentiels qui sont en jeu. La solidarité, l'universalité et le droit à la protection sociale pour toutes et tous. Nous refusons une sécurité sociale à plusieurs vitesses. Nous refusons que l'accès aux soins dépende des moyens de chacun. Nous revendiquons de meilleurs remboursements, la fin des franchises médicales et un financement plus juste et plus solidaire. Mes camarades, la sécurité sociale n'est pas une charge, c'est une conquête, un pilier de notre modèle social et elle mérite bien plus que des ajustements comptables. Alors, je vais changer de sujet. Je souhaitais intervenir à propos de l'IA. Donc, je vais remercier quand même Éric Pérez qui était venu au sein de notre union départementale pour faire une conférence sur le sujet. Et je préfère quand même revenir sur le rapport d'activité et sur un événement qui s'est déroulé chez nos voisins et qui m'a littéralement sidéré. Lors d'une manifestation syndicale le 5 juillet dernier, Frédéric, tu as intervenu à la tribune alors qu'un député d'un parti raciste, antisémite et xénophobe était présent. Quand bien même nous restons fidèles à la charte d'Amiens, voir notre syndicat faire expulser manu militari des personnes dénonçant le caractère antisocial de ce parti constitue pour moi un scandale. Alors, je dis pas que Fred, tu as une appointance quelconque avec le RN, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Ce qui me dérange, c'est le fait que les personnes qui étaient présentes aient été vraiment expulsées par des camarades FO de manière vraiment très violente. La position de ce courant politique sur le 1er mai, notre seul jour férié, chômé et protégé par le Code du travail, en est d'ailleurs une preuve. La CGTFO peut être apolitique tout en étant antifasciste. Concernant la réforme de l'assurance chômage, je n'ai pas non plus compris la position de notre confédération. J'ai bien écouté ton rapport d'activité, mais je ne comprends toujours pas. Revendiquer le paritarisme, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et je conclurai en portant une revendication simple. L'exécutif ne doit pas s'attaquer au 1er mai, notre journée de revendication des travailleurs. Ce jour, aujourd'hui protégé par le Code du travail, doit rester férié et chômé. Je compte sur la Confédération pour rester inflexible sur le sujet. Pas de négociation dans les branches. S'il souhaite réellement redonner du pouvoir d'achat, le gouvernement ferait mieux de s'attaquer, pour ne citer qu'un exemple, aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Une autre mesure concrète consisterait à imposer aux entreprises davantage de jours de télétravail. Il est hallucinant que dans une entreprise comme la mienne, ProBTP, institution de retraite et de prévoyance, des jours de télétravail supplémentaires soient refusés à des salariés qui en font la demande simplement pour tenter de préserver un peu de pouvoir d'achat en pleine période de choc pétrolier.
Sébastien, tu penses à conclure?
Allez, je conclue. Bah, juste parce que je profite, mon directeur général se situe sur le stand ProBTP à 7h. Donc voilà, la revendication de demander du télétravail supplémentaire, je la porte sur cette tribune. Juste une pensée pour Michel Mangin, comme il faut que je termine. Michel Mangin, on pense à toi, il y a une chaise vide à ce congrès. Malheureusement, tu es disparu depuis le dernier congrès de Rouen et je voulais avoir une pensée pour toi et une marque de sympathie pour Cécile et Jacques. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, vive la sociale, vive le syndicalisme libre et indépendant.
Monte à la tribune Daniel Ferté et se prépare Fabrice Villain. Fabrice, je t'en prie. Daniel. Et Fabrice se prépare. Hein.
Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération syndicaliste des cheminots. Léon Jouot disait « Adhérer au syndicalisme, c'est délivrer le monde de la guerre ». Mes camarades, pour éviter les redites, et parce que nous partageons avec le camarade d'Airbus qui s'exprimait tout à l'heure la conviction que nous sommes tous d'accord sur ce sujet, nous nous contenterons de dire que nous avons entendu la proposition portée par le camarade Michel Leroc de l'UD44 et que nous soutenons pleinement le besoin d'une initiative nationale de campagne pour réaffecter les crédits de guerre aux services publics. Mes camarades, en cette année de 120e anniversaire de la Charte d'Amiens, dont nous espérons qu'il sera célébré comme il se doit, nous discutons beaucoup ici du sujet de l'indépendance, en toute logique. Bien sûr, on évoque souvent l'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Nous voulons, pour notre part, discuter de l'indépendance vis-à-vis de l'État et du patronat. Mes camarades, ça nécessite une vigilance de chaque instant tant les dérives sont possibles. La Ve République est faite pour ça. Il y a environ un an et demi, notre organisation s'est trouvée signataire d'une lettre ouverte aux élus et responsables politiques, co-signée avec 70 organisations, y compris le patronat. Cette lettre a provoqué un véritable mécontentement chez les cheminots. Demande de stabilité politique, positionnement en tant que corps intermédiaire. Nous serions même, d'après cette lettre, porteurs de progrès social conjointement avec le patronat. Eh bien, mes camarades, pour notre part, nous pensons que le principal problème auquel sont confrontés les salariés de ce pays, c'est la très grande stabilité politique qui conduit tous les gouvernements depuis au moins 30 ans à remettre en cause les services publics, les statuts, la sécu, les retraites, etc., etc. Nous affirmons que pour notre part, nous sommes porteurs de progrès social, non avec le patronat, mais contre le patronat, qui s'est toujours opposé frontalement à tout progrès social. Mes camarades, nous ne résumerons pas le mandat à cet épisode. Nous voulons retenir de ce mandat l'attitude de la Confédération pendant le conflit sur les retraites, que nous ne pouvons qu'approuver, puisque la Confédération a tenté à plusieurs reprises, comme l'a rappelé Fred dans son introduction, de déborder la stratégie des journées d'action à saute-mouton, dont nous savons qu'elles ne permettent pas de bloquer le pays. À cette occasion, une petite fédération comme la nôtre, d'une petite branche professionnelle comme la nôtre, a su montrer une grande détermination et une grande capacité de mobilisation, comme en témoignent largement les journées de solidarité confédérale versées. Mes camarades, d'ailleurs, on tient à remercier la Confédération sur le sujet, puisque cette mise en place de solidarité confédérale témoigne à elle seule d'une vraie volonté de gagner, même si on n'a pas gagné la bataille. Enfin, mes camarades, cette année sera, pour nous comme pour beaucoup ici, une année électorale. Elle revêt une importance particulière puisque notre direction de la SNCF a signé avec 3 organisations syndicales un accord qui nous retire plus de la moitié de nos moyens syndicaux. L'ensemble des camarades qui étaient engagés à la Fédération des cheminots sont remis en service, mes camarades. Et malgré tous ces moyens, ils n'ont pas réussi à nous faire taire ou disparaître, puisque nous avons reconquis en 2025 la représentativité dans la branche ferroviaire et en ce début d'année, la première place chez Thalys et Eurostar.
Daniel, tu penseras à conclure, s'il
te plaît. Je conclue dans la minute. Quoi qu'il arrive, nous ne baisserons pas la tête. Et nous devons tous ici réaffirmer nos revendications. C'est par là qu'on exprime l'unité de notre confédération. Alors, à bas la guerre, abrogation de la loi sur la représentativité, abrogation des contre-réformes sur les retraites, retour à une SNCF, une indivisible et au monopole public du transport ferroviaire, le statut pour tous les cheminots au statut, vive la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière.
Merci merci Daniel. Donc monte à la tribune Fabrice Villain et ce sera le dernier intervenant pour ce matin. Et cet après-midi, nous démarrons par Gérald Albano et Patrick Albert. Fabrice, je t'en prie.
Alors pour commencer, je voulais remercier le bureau confédéral, je voulais remercier l'Union départementale des Côtes d'Or pour l'organisation de ce congrès et aussi les salariés de la Confédération. Frédéric, un petit message avant de démarrer. Je voulais te dire que les plus de 3500 camarades de l'Union départementale te connaissent. Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats de la Somme, là où est née la Charte d'Amiens, dont on fête cette année les 120 ans. J'ai été mandaté pour voter le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Et je suis le secrétaire d'une union départementale qui est à jour de ses cotisations envers la Confédération. Ce mandat n'a pas été de tout repos. Entre autres, la réforme des retraites, les licenciements économiques et bien sûr la fin des trois mandats consécutifs et tant d'autres combats. L'essentiel est de préserver notre indépendance, de poursuivre notre progression lors des élections et surtout, mes camarades, de renforcer notre développement grâce à nos implantations. Là, nous sommes présents, nous obtenons de bons résultats. Mais il reste encore trop d'entreprises où FO est absente. Et pendant ce temps, certains se perdent dans des discours de guerre, de budget de guerre, excusez-moi, qu'ils regardent la réalité d'en face. Derrière ces entreprises, il y a des travailleurs qui travaillent dur pour faire vivre leur famille. Notre priorité doit être claire. La fiche de paye. Sans salaire, il n'y a pas de travailleurs. Sans un travailleur, il n'y a plus rien. Le prochain mandat doit être axé sur le renforcement de notre représentativité, l'augmentation des salaires pour tous, un logement pour tous, une retraite paisible à un âge très correct, la sauvegarde de nos conventions collectives très bien négociées par nos fédérations qui ont pourtant une marge de négociation limitée. Si nous exaucons tous ces souhaits, nous pourrons alors parler d'autre chose, mes camarades. Vive l'Union départementale des syndicats de la Somme, vive la Confédération Force Ouvrière.
Merci Fabrice. Donc nous pouvons aller déjeuner, nous reprenons à 14h. La présidence sera faite par moi et mes deux assesseurs. Et s'il vous plaît, pensez à ceux qui nettoient la salle, si vous aviez l'extrême gentillesse de nettoyer un peu vos tables, ça leur évitait de finir à minuit ce soir. Merci. Je t'ai répondu ?
Parce que c'est inscrit.
Il n'a pas risqué à
faire. Oui, il commence à inscrire.
Ah, mais ça, 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 ça,